Il est midi, Info Week-end avec Léana Colombo.
Aujourd'hui, nous fêtons la Chandeleur. Si pour certains, ce jour est synonyme de dégustation de crêpes, pour les chrétiens, il s'agit du jour de la présentation de Jésus au Temple. Du vent et de la pluie, c'est ce que la Calédonie devrait connaître ces prochaines heures en raison de la dépression tropicale faible. Bélep et les îles Loyauté seront les plus touchées. L'événement est encore en cours, mais le premier vide-grenier de l'année sur la place des Cocotiers est déjà considéré comme un succès. Les allées sont remplies malgré la météo maussade de ce matin. En métropole, François Bayrou annonce qu'il utilisera le 49.3 pour faire adopter le budget, mais l'utilisation de cet article s'accompagne d'un risque de censure. Dans notre page sport, nous parlerons rugby avec la fin de la première journée du tournoi des Six Nations et la France partage la tête du classement avec l'Irlande et l'Écosse. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Week-end pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. La fête de la lumière, c'est aujourd'hui, également appelée la Chandeleur. Ce jour symbolise la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Et Michael Juneski, c'est un moment important pour de nombreux Calédoniens.
40 jours après sa naissance, à Noël, l'enfant Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph. Le Christ qui est accueilli par Siméon en proclamant que cet enfant était la lumière du monde et serait un signe de contradiction. Le vieillard achevait de manifester que Jésus était le Messie, sauveur du monde, lumière pour éclairer les nations dans l'évangile selon Luc. À la Chandeleur, qui signifie fête des chandelles, on bénit notamment les cierges pour symboliser donc la lumière et purifier les âmes. Dans toutes les églises de Nouvelle-Calédonie, la ferveur était grande ce matin, illustration notamment en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa.
C'est très important, quand j'ai pris beaucoup, j'aime Dieu de tout mon âme.
Comme c'est une année jubilière, donc il est important pour nous de renouveler cette lumière qui est en nous et pour pouvoir partager autour de nous.
D'être ensemble, c'est parfait.
Moi, je suis novice, donc j'apprends encore. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon moment de partage. Ça fait plaisir et puis ça ouvre les cœurs, quoi.
Chaque année, prions, nous prions. On est des grands croyants. Amour à notre pays.
C'est la présentation de Jésus au Seigneur à Jérusalem, donc c'est une belle fête de la lumière.
Très important, surtout j'ai été catéchète pendant plusieurs années et je m'occupais de l'éveil à la fois, les tout petits enfants.
La fête de la lumière, c'est important, il faut que nous tous nous soyons accompagnés dans nos vies de la lumière, c'est ça qui va nous éclairer pour accomplir de bonnes actes.
En la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa, la messe de 9h était présidée par le père Roca Pikawa, vicaire général du diocèse de Nouméa.
Les baptisés que nous sommes, et nous sommes quelques-uns sur cette terre calédonienne, il faut faire de sorte que nous vivions des vies alignées sur l'Évangile pour que nos vies deviennent lumière pour nous-mêmes et lumière aussi pour les autres, en sachant que l'unique source de lumière, c'est le Christ. Mais le Christ est aussi présent chez les petits et chez les pauvres. C'est ce qui est rappelé par les personnages qui sont là à la présentation du Seigneur, un couple de pauvres gens, des vieux. Eh bien, c'est en nous tournant vers les autres que nous nous tournerons aussi vers la lumière du Christ et que nous pourrons vivre des vies lumineuses, même si la situation dans laquelle nous vivons est une situation qui n'est pas lumineuse. On nous a dit que nous sommes plus pays proches du paradis, mais il n'empêche que chacune d'entre nous peut être lumière du monde là où nous nous trouvons. Faut-il encore que nous nous approchions du Christ toujours. Et le Christ est présent chez ceux et celles que nous rencontrons chaque jour de notre vie.
Et enfin, pour la communauté catholique, c'est aussi la date retenue pour la journée de la vie consacrée. Le pape Saint Jean-Paul II qui a institué le 2 février comme journée de la vie consacrée en 1997.
Et Michael, la Chandeleur qui est aussi une tradition gourmande.
Oui, avec les dégustations des fameuses crêpes ou galettes, les stars des amateurs du genre ce 2 février. Par exemple, sur le stand de la crêperie gourmande au marché de la Moselle à Nouméa, ils étaient nombreux ce matin à venir à la rencontre de Jade en pleine préparation des crêpes.
Il y a énormément de personnes pour les crêpes et pour les galettes bretonnes. Alors on est là tous les week-ends, mais particulièrement aujourd'hui, on a pas mal de monde.
Une bonne recette pour une crêpe et pour une galette, ça consiste en quoi ?
Alors une bonne crêpe fine, croustillante autour et bien garnie. On a notre petite recette secrète, mais la recette de crêpes est très simple avec des bons œufs, de la farine, du lait. Et pour les galettes, juste la farine de sarrasin. Et la recette est un peu plus complexe, mais en tout cas, elles sont très bonnes. Un peu de gel dans la pâte, ça fait toujours du bien. Et faire cuire la crêpe avec un peu de beurre, c'est toujours meilleur. Je trouve plus simple de faire des crêpes sur une crêpière professionnelle qu'à la casserole, mais bon, je m'en sors pas mal aussi. Ça fait peut-être 5 ans ou plus que j'ai une crêpière professionnelle à la maison et que du coup, on améliore à chaque fois notre recette pour avoir les meilleures crêpes.
Il y a évidemment la garniture. J'imagine que vous avez beaucoup de choix. C'est quoi le plus demandé ?
Côté sucré, on a beaucoup de caramel beurre salé qui partent, car il est fait maison et il est super bon, dont le chocolat aussi qui est fait maison. Côté galette, on a juste du jambon au fromage et c'est la seule garniture qu'on propose, mais ça part. Les choses simples sont les meilleures.
Voilà pour cette illustration à propos des crêpes de la Chandeleur sur le stand de la Crêperie Gourmande au marché de la Moselle à Nouméa. Cette tradition des crêpes de la Chandeleur trouve aussi son origine dans l'hémisphère nord. La crêpe représenterait le soleil après un long hiver, le 2 février qui symbolise donc également la fin du solstice d'hiver, et l'arrivée du printemps, notamment en Europe.
Du côté de la météo, le temps se dégrade ce dimanche sur l'ensemble du territoire, mais ce n'est pas un épisode exceptionnel, précisent les prévisionnistes de Météo France Nouvelle-Calédonie. La dépression tropicale faible touchera tout de même les îles Loyauté la nuit prochaine, Léo Fichou.
Et oui, le phénomène cyclonique évolue actuellement au nord de la Grande Terre, à 150 km de Bélep. Une dépression tropicale faible qui ne devrait pas se développer à un stade de dépression tropicale modérée. Les îles Loyauté seront tout de même les plus impactés dans la nuit. La côte ouest et la pointe sud seront aussi touchés par de fortes rafales et des précipitations. Les précisions de Virgile Cavarero, le prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Il y a une dépression qui est située au nord-est de Bélep, à environ 150 km actuellement. Il est prévu que cette dépression se décale maintenant vers le sud-est et qu'elle passe proche des Loyautés. Donc pour cela, les communes de Bélep, la façade est et Loyauté sont vigilants jaunes pour le vent violent et la pluie, mais effectivement c'est sur les Loyautés qui a les plus fortes conséquences. Aux Loyautés, on attend un renforcement du vent la nuit prochaine avec du vent jusqu'à 30 nœuds et des rafales jusqu'à 45 nœuds. Sur la côte est et la pointe sud, on attend également des pluies, mais pas aussi forte, on attend 50 à 100 mm. Ça peut faire déborder localement des cours d'eau, mais ce n'est pas un épisode exceptionnel.
Avec l'arrivée de ce phénomène, une forte houle est également à prévoir sur les Loyautés ces prochains jours. Actuellement, comme le disait Virgile Cavarero, 16 communes, toutes situées sur la côte est et les Loyautés, sont en vigilance jaune, pluie, orage et vent violent.
Cet événement attendu de tous était justement tributaire de la météo. Le vide-grenier du centre-ville faisait son retour ce matin sur la place des Cocotiers à Nouméa. Le dernier organisé remontait au 3 novembre dernier. Et Léo Fichou, malgré la pluie, les stands et les allées étaient remplies.
Un temps remis en question en raison des conditions météorologiques, effectivement, la ville a maintenu ce premier vide-grenier du centre-ville de l'année. Et malgré les quelques gouttes de pluie qui sont tombées ce matin sur la place des Cocotiers, c'est une réussite pour Aurélie Auduro, chef du service animation et rayonnement de la ville de Nouméa.
C'est le premier de l'année, en effet, on a tous nos 250 stands qui sont pleins, donc ça s'est vendu très très vite, en même pas 30 minutes sur le site, très vite aussi au centre d'art, donc les places partent très très vite et c'était très attendu, voilà, et donc ils sont tous présents. Les gens arrivent au fur et à mesure, tout au long de la journée, donc on a un petit peu des petits grains, mais il ne faut pas être timide, venez avec vos parapluies au cas où. Toujours des sourires, les gens étaient de très bonne humeur ce matin, tout le monde m'a dit « et le temps ?» Je dis « bah écoutez, la météo nous dit qu'il y aura peut-être des petites pluies vers 11h, bah, est arrivé un petit peu plus tôt, mais malgré tout, tout le monde a le sourire. »
Les 250 exposants se sont donc installés sur toute la place des Cocotiers, de la mairie de Nouméa jusqu'au kiosque à musique. Plusieurs centaines de Calédoniens sont venus chiner dans les allées, et malgré la pluie, c'était l'occasion de faire de bonnes affaires.
Oh, moi, je viens à tous les vides-greniers de la place des Cocotiers de l'année, donc là, je n'ai pas encore vraiment ni cherché ni trouvé, mais c'est toujours un plaisir de déambuler, de toute façon. C'est incontournable, le vide-grenier de la place des Cocotiers. Et en plus, c'était la reprise, donc il fallait être là.
Malgré la pluie.
Malgré la pluie.
Je suis venue chercher pour 3-4 ans, mais bon, j'ai quand même pris pour ma petite nièce.
On est là, venez voir, c'est pas cher, monsieur. Oui, c'est là.
Nico Bricolage.
Nico Bricolage, il est près du
gosse. Vous, vous avez trouvé votre bonheur ?
Oui, tout à fait. Oui. On est là depuis ce matin, on fait des petits tours. Et puis, c'est sympa, dans cette période où on fait tous un petit peu attention financièrement, bah, de trouver des trucs bon marché, c'est toujours agréable.
Malgré la pluie, quand même, vous êtes quand même venu ?
Le météo annonçait quand même une belle la dépression qui venait sur nous. Et puis, finalement, ça tient. Donc, on a tenté le coup et ça valait le coup.
Et le premier vide-grenier de la place des Cocotiers continue encore un peu, quelques minutes jusqu'à 12h30. Le prochain aura lieu le dimanche 2 mars.
Une nouvelle date pour l'ouverture totale de la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis. La date du lundi 10 février était annoncée hier par le Haut-Commissariat. Finalement, changement de programme, la route de Saint-Louis ouvrira totalement dès ce lundi, le 3 février, soit demain. Pour rappel, la route traversant la tribu était bloquée au nord et au sud depuis juillet dernier par deux verrous établis par la gendarmerie. L'ordre public est vraiment rétabli et la situation est totalement sous contrôle. C'est ce que déclare le haut-commissaire Louis Lefranc. Il était l'invité d'Elisabeth Noir vendredi midi dans le premier magazine Transparence de l'année pour revenir sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie. Michael Juneski.
8 mois après le début des violences insurrectionnelles, l'ordre public est rétabli, affirme en effet le haut-commissaire, qui signale seulement quelques lieux de résistance sporadique, essentiellement dans les quartiers nord de Nouméa, des secteurs dans lesquels il faut une attention particulière et une pression des forces de l'ordre qui, d'ailleurs, multiplient les patrouilles. Louis Lefranc qui évoque les effectifs conséquents en forces de l'ordre avec 500 gendarmes dans les brigades, mais aussi 1400 gendarmes mobiles.
C'est un effectif qui est important, qui est comparable à celui qui avait été déployé, même supérieur pour les référendums, enfin, en tous les cas, qui est très supérieur à celui dont je disposais le 13 mai dernier. J'ai malheureusement pas assez d'effectifs. Donc là, on en a 1400, 20 escadrons avec ça. On tient le choc. Allez, 48 à 72 heures sur le Grand Nouméa. Et si ça partait sous la forme d'émeutes comparables à celles qu'on a pu connaître et dont vous vous rappelez tous, eh bien, le renforcement, on l'aura dans les 72 heures. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, je lui en ai parlé, et je vous garantis que c'est comme ça que ça se passera, si tant est que ce que l'on a connu le 13 mai dernier devait se reproduire.
Et il y a aussi 36 gendarmes du GIGN qui pourront également être renforcés, souligne le haut-commissaire, ainsi qu'une cinquantaine de personnels de renfort en police judiciaire. Au total, cela représente quelques 2000 gendarmes présents en Calédonie, ce qui est, dit-il, au moins 4 ou 5 fois plus que ce qu'il y a dans les territoires les plus compliqués en métropole. Et aux forces de gendarmerie s'ajoutent, bien sûr, les effectifs de police.
Il y a eu des compagnies CRS, il y a aussi un effectif qui est loin d'être négligeable, qui est à peu près comparable à celui des gendarmes dans les brigades territoriales. On a 550 policiers actifs sur Nouméa qui organisent des patrouilles. On a environ 20 patrouilles qui se déploient sur le terrain jour et nuit. Je ne vous ai pas parlé des patrouilles gendarmerie. On en a 180 sur le territoire global de la Nouvelle-Calédonie, dont les trois quarts sont sur le Grand Nouméa. Donc vous avez sur le Grand Nouméa, qui est la zone où les émeutes ont été les plus violentes, où les affrontements ont été les plus longs, les plus durs, et où il y a eu les destructions. On a environ tous les jours 200 patrouilles qui sont faites par ces escadrons de gendarmerie mobile, dont les trois quarts sont déployés dans le Grand Nouméa, et par les effectifs de police de la DTPN.
Le haut-commissaire annonce qu'une cartographie opérationnelle de la délinquance a été mise en place pour déployer les effectifs quand des incidents sont signalés. Cela permet une adéquation des moyens avec la réalité de la délinquance et cela a abouti à une forte diminution des délits sur le territoire.
Vous imaginez 200 patrouilles jour et nuit sur le territoire calédonien, mais dont les trois quarts sont sur le Grand Nouméa. Forcément, ça porte ses fruits. Vous savez, les gendarmes mobiles ne passent pas leur journée dans les hôtels, même si les hôteliers sont plutôt satisfaits de voir ces gendarmes mobiles chez eux. Ils sont là pour travailler. Et si la situation devait de nouveau se tendre, eh bien, on mettra en place les bonnes vieilles méthodes sur le plan tactique opérationnel d'emploi des forces mobiles contre les émeutiers, comme on l'a fait. Et on ira cette fois beaucoup plus vite. Et pour ce qui me concerne, je demanderai à ce que les forces d'intervention spécialisées de la gendarmerie nationale soient beaucoup plus systématiquement engagées pour éviter que les gendarmes mobiles soient victimes des tirs des émeutiers.
Et pour qualifier ce dispositif important des forces de l'ordre, le haut-commissaire exprime la fermeté de l'État et il parle de mesures de vigilance active.
Ce qui s'est passé le 13 mai, les semaines et les mois qui ont suivi, on en a tous tiré des enseignements, c'est-à-dire de notre côté, du côté de l'État, des forces de sécurité intérieure, du côté du haut-commissaire et de ses collaborateurs et collaboratrices. Nous, on est dans une situation, là, aujourd'hui, où on est prêt à réagir à tout moment, à engager les escadrons de gendarmerie mobile à tout moment. là où il le faut et quand il le faut. Si j'ai demandé à ce que ces 20 escadrons nous soient maintenus et avoir des renforcements, si tant est que ce soit nécessaire, au cas où malheureusement ça pourrait se reproduire, eh bien j'aurai ces renforcements. Donc c'est une posture de vigilance, mais de vigilance active.
Le commissaire a été interrogé sur la situation à Saint-Louis qui reste problématique. Louis Lefranc indique que 45 personnes originaires de la tribu sont actuellement au camp Est, mais que des solutions sont toujours recherchées.
Il y a un travail qui est fait, je ne veux pas non plus jeter totalement la pierre aux autorités coutumières locales. Il y a un travail quotidien qui est fait par la direction de mon cabinet, par le général commandant la gendarmerie, parce qu'il mouille la chemise pour rencontrer ces autorités coutumières de manière régulière. Il y en a qui coopèrent. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, toujours garder le versant positif de l'Everest. Merci à ceux qui coopèrent et qui font en sorte que la situation se rétablisse progressivement dans cette tribu. Parce que moi, je reste une fermeté constante. Je suis très déterminé. Et si jamais ça devait repartir dans le mauvais sens, je ferai intervenir, je l'ai déjà dit, les forces d'intervention spécialisées de la gendarmerie nationale, s'il le faut. Vous savez, il y a quelques jours de cela, un des individus impliqués dans l'affaire de l'assassinat du jeune gendarme Molinari, en deuxième quinzaine de mai, a été interpellé. Les gendarmes qui ont procédé à cette interpellation étaient ceux du GIGN. Ils se sont repliés avec un véhicule de l'avant blindé. Il y a eu 3 tirs qui ont été effectués contre ce véhicule. Moi, je dis à ceux qui l'ont fait, on va les interpeller et qu'ils ne s'avisent pas de recommencer. Je les mets en garde. Moi, je n'ai pas pour habitude, quand je dis quelque chose, ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, les forces d'intervention de la gendarmerie nationale interviendront autant de fois que nécessaire. Je n'exposerai pas les gendarmes mobiles à Saint-Louis.
Le haut-commissaire est également revenu sur la levée nécessaire du couvre-feu qui s'accompagne du maintien d'un certain nombre de restrictions, dont l'interdiction de rassemblement et de manifestation dans le Grand Nouméa. Il a aussi été interrogé sur l'activité judiciaire et il précise que depuis le 13 mai, il y a eu 4000 interpellations, plus de 3000 gardes à vue et plus de 159 incarcérations fermes. 76 détenus ont aussi été transférés dans des prisons métropolitaines. Mais que sont devenus les 10 à 12 000 insurgés ?
Ils sont toujours là. Alors j'espère que tout le travail à la fois de la police, de la gendarmerie et de la justice va leur permettre un retour à la raison, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, virgule, mais nous aussi, d'accord ? Nous, on est là. Et s'ils ont bien entendu ce que je vous ai dit, si jamais ça devait se détériorer, la situation actuelle, où le calme est rétabli, l'ordre est rétabli, eh bien, ces forces qui font aujourd'hui des patrouilles rentreront dans une logique de maintien de l'ordre et les renforcements, je les demanderai immédiatement. Et ces renforcements feront que le volume de force, d'intervention, de sécurité intérieure, de la police, de la gendarmerie nationale sera comparable à ce qui a été déployé le 24 septembre dernier. J'ai demandé aussi au ministre de l'Intérieur à ce que des forces militaires de sécurité civile viennent en appui.
Nous sommes fermes et constants dans la fermeté, ajoute le haut-commissaire Louis Lefranc dans cette interview disponible donc en podcast audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc, un magazine Transparence qui sera rediffusé dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45.
Info week-end, il est 12h18.
Dans le reste de l'actualité sur le territoire, le premier forum du Livre Blanc des quartiers populaires se déroulait hier au Sénat coutumier à Nouville, Michael Juneski.
Les référents des quartiers ont pu échanger sur le thème du droit dans une déclaration finale. Les participants appellent notamment à l'action des élus pour soutenir les initiatives et veiller à ce que les préoccupations des quartiers soient prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques. Victor Gogny, porte-parole du Sénat coutumier.
Ce droit, donc, il y avait à renseigner sur le droit civil coutumier. Il y avait également donc le droit commun, également décliner le droit au niveau des personnes qui habitent dans les quartiers, dans les squats. Le dernier, c'est le droit des personnes en difficulté. C'est des questionnements donc, que chaque personne devait donc, soulever. En fonction de cela, bon, ben, il y avait des intervenants et il y avait des présidents d'AIR. Hein. Les problématiques reviennent, hein, donc, que ce soit sur le logement, sur le transport, sur la couverture sociale. Le droit, il est un peu pour tout le monde. On doit plutôt parler du rapport que l'on a soi-même avec le droit qui est là. Le droit, donc, il doit solutionner un petit peu les difficultés de chaque individu.
D'autres forums sur le livre blanc des quartiers populaires seront organisés dans les semaines à venir. À la fin du mois, un nouveau forum sous l'égide du Sénat coutumier sera organisé sur le thème de l'économie sociale et solidaire.
En bref, une opération de sauvetage au Mont Cogui hier. Une femme souffrant d'une douleur à la cheville a dû être évacuée au sommet du Belvédère par les secours aux alentours de 15h. 4 sapeurs-pompiers de la sécurité civile ont tout d'abord tenté de brancarder la victime, mais en raison de la configuration du terrain peu praticable et de la météo, c'est finalement 14 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés à Dumbéa. L'opération s'est terminée à 1h30 du matin alors qu'elle avait débuté, je le rappelle, à 15h. Il est midi 20, première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. À tout de suite.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de notre journal avec l'actualité nationale et internationale. On retrouve Léana Colombo.
L'actualité nationale, tout d'abord, François Bayrou s'apprête à dégainer le 49-3 dès demain pour faire adopter les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Le Premier ministre a déclaré dans la tribune du dimanche, je cite, « Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget. Le seul moyen, c'est d'engager la responsabilité du gouvernement. Ce sera fait ce lundi. » L'utilisation du 49-3 par François Bayrou s'accompagne d'un risque de censure. La France insoumise ayant annoncé le dépôt de motion de censure que devraient également voter les communistes et les écologistes. Le Rassemblement national et le Parti socialiste n'ont en revanche pas encore fait connaître leurs intentions. À la télévision, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a appelé les socialistes et plus généralement la gauche à ne pas voter la censure. On l'écoute.
J'appelle, pour ce qui me concerne, les socialistes et même l'ensemble des forces de gauche à ne pas voter la censure.
Quel serait le péril ?
Il se passerait que l'administration ne serait plus dirigée. Dans la situation financière dramatique qui est la nôtre, il n'y aurait ni budget ni loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Qui pourrait faire face au drame de Mayotte ? Qui chercherait la réconciliation en Nouvelle-Calédonie ? Qui assurerait, veillerait à la sécurité ? Mais ça serait un pays non dirigé.
Voilà pour cette déclaration de Lionel Jospin qui s'exprimait à la télévision sur France 5. Un avis partagé par la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, qui s'est exprimée dans les colonnes du Parisien. Elle souhaite, elle aussi, tendre la main au Parti socialiste. L'actualité internationale, 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés par le Hamas. Après 483 jours de détention, le franco-israélien de 54 ans, Ofer Calderon, est enfin libre. Il avait été enlevé lors des attaques terroristes du 7 octobre 2023 avec ses 2 enfants, libérés lors de la première trêve en 2023. Ils attendaient depuis la libération de leur père. Et depuis le début de la trêve à Gaza, il s'agissait donc du 4e échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Oui, et du 2e cette semaine, alors que plusieurs otages ont été libérés jeudi. Aujourd'hui, donc, c'est dans la matinée que débute le transfert des 3 otages. Sur des vidéos diffusées par le Hamas, on voit Ofer Calderon entouré d'hommes en armes à Khan Younes. Ils ont le visage cagoulé, des bandeaux verts sur le front. Mise en scène orchestrée par le groupe terroriste, devenu presque habituel depuis les premières libérations mi-janvier. L'otage franco-israélien est ensuite conduit par la Croix-Rouge vers le poste frontière de Rafah, puis héliporté jusqu'à Tel Aviv, à l'hôpital. Hôpital Shiba précisément. C'est là que l'attendent depuis le début de la matinée ses amis devant l'entrée de l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital, les enfants d'Ofer sont là. Eux aussi, les retrouvailles sont touchantes, filmées par la télé israélienne.
Oh,
Ofer Calderón enlace longuement ses enfants. Deux d'entre eux ont également été captifs du Hamas, libérés en novembre 2023. Quant à Kiss Siegel, 65 ans, il a, lui, été libéré dans la région de Gazaville ce matin, où il est apparu très amaigri, affaibli par ses 484 jours de captivité. Enfin, si Yarden Bibas a retrouvé sa liberté, il est toujours sans nouvelles de ses deux enfants, Kfir et Ariel, ainsi que de sa femme Chiri, toujours en captivité, avec une grande interrogation. Sont-ils toujours vivants, alors qu'enfants et femmes civiles auraient normalement dû être libérés en priorité, selon les termes de l'accord du cessez-le-feu? Pour l'instant, Israël n'a jamais confirmé leur mort.
En contrepartie de la libération de ces trois otages israéliens, 183 prisonniers palestiniens et un Égyptien ont été libérés. L'actualité dans le Pacifique. Nous vous parlions en début de journal de cette dépression tropicale qui arrive peu à peu vers la Calédonie. Et en Australie, des pluies torrentielles s'abattent déjà sur le nord Queensland, où des milliers de personnes sont soumises à des ordres d'évacuation immédiate. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le bureau météo a indiqué que plus de 700 mm de pluie sont tombés rien que ces dernières 24 heures dans plusieurs localités de la région de Townsville, où un mètre de précipitation avait déjà été enregistré depuis le début de la semaine. Une dépression tropicale accompagnée de vents violents est à l'origine du déluge qui s'étend sur 600 km de Cairns à Mackay. En raison des inondations que le phénomène a causées, des ordres d'évacuation ont été lancés ce matin dans au moins 6 agglomérations de la région de Townsville. Toutes les rivières du Nord Queensland sont en crue, les réseaux routiers et ferroviaires sont impraticables, les aéroports sont fermés, d'immenses plaines fertiles disparaissent sous les eaux, tandis que des crocodiles ont été signalés dans plusieurs quartiers de Townsville. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, midi 26, seconde pause avant de passer au sport.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Léana Colombo.
Et à la une de l'actualité sportive du rugby avec le tournoi des 6 nations.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi des 6 nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Après la victoire écrasante de l'équipe de France hier sur le Pays de Galles, l'Écosse affrontait l'Italie et l'Irlande recevait l'Angleterre, Léo Fichou.
Oui, après la première journée de ce tournoi destination, les Bleus sont en tête du classement à égalité de points avec l'Écosse et l'Irlande. Les trois équipes se sont imposées avec le bonus offensif. Elles possèdent donc 5 points. L'équipe de France avait écrasé le Pays de Galles 43-0. L'Écosse a dominé l'Italie 31-19 et l'Irlande a dominé l'Angleterre 27-22. La semaine prochaine, deuxième journée de ce tournoi des 6 nations, l'Italie recevra le Pays de Galles, la France ira défier l'Angleterre pour un crunch à Twickenham et l'Irlande sera en Écosse. Notez que chez les U20, les moins de 20 ans, l'équipe de France s'est imposée 63-19 sur les Pays de Galles. Brent Liufau n'était pas sur la feuille de match. Victoire bonifiée qui permet aux Bleus de prendre seul la tête du classement après la première journée. Samedi prochain, le 15 de France ira aussi en Angleterre.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
On passe au football en métropole avec la suite ce matin de la 20e journée de Ligue 1 et une pluie de buts sur les pelouses.
18 buts en seulement 3 matchs. Le Paris Saint-Germain a dominé Brest 5-2. Monaco s'est imposé contre Auxerre 4-2. Et enfin, Lille a dominé Saint-Etienne 4 buts à 1. On rappelle qu'hier, Lens s'est imposé 2 à 0 sur la pelouse de Montpellier.
On parle tennis avec l'équipe de France qui dispute la Coupe Davis ce week-end.
Les Bleus affrontent le Brésil à Orléans et ils mènent 2 à 0. Hugo Humbert a marqué le premier point de l'équipe de France en battant le jeune Joao Fonseca. Le score 7-5-6-3. Arthur Fils a apporté le deuxième point en battant Thiago Seboot-Wild 6-1-6-4. La nuit prochaine, place au double. Benjamin Bonzi et Pierre Gerbert défieront Raphaël Matos et Marcelo Melo.
Un mot de sport de combat avec du MMA ce matin. Deux Français sur la carte principale de l'UFC Fight Night 250 en Arabie Saoudite.
Oui, Fares Ziam contre l'Américain Mike Davis et l'autre Français, Nassour Dinimavov, contre la légende du MMA Israël Adesanya. Deux combats français et deux victoires. Fares Ziam d'abord qui n'a pas tremblé. Il s'est imposé par décision unanime et se rapproche donc du top 15 de la catégorie des moins de 70 kilos. Nassour Dinimavov de son côté, lui bien ancré dans le top 15, dans le top 5 même de la catégorie des moins de 84 kilos. Le Français est numéro 5. Il affrontait le numéro 2, le Nigérian Israël Adesanya. Le sniper français a réalisé la plus grande performance de l'histoire du MMA français. Il a mis KO l'ancien champion au deuxième round et peut désormais prétendre à un combat pour la ceinture mondiale.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouraille, c'est le 99.
Enfin, l'événement sportif de ce week-end sur le territoire, c'est la Ryder Cup d'Eva 2025, un tournoi de golf par équipe entre les broussards d'un côté et les sudistes de l'autre, Léo.
Et oui, à l'image de la Ryder Cup qui oppose chaque année les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs golfeurs européens, le golf de Deva organise depuis hier matin une compétition entre les broussards de Deva et de la Wengi contre les sudistes de Dumbéa et de Tina. On rappelle que 10 hommes et 10 femmes composent chaque équipe. À l'issue de la première journée de cette Ryder Cup, ce sont les broussards qui mènent 11 points et demi à 8 points et demi. 20 points ont donc été donnés hier, 20 points sont donnés aujourd'hui. Et à l'issue de cette seconde journée qui se joue en simple, on saura qui des broussards ou des sudistes remporteront la première édition de cette Ryder Cup Deva.
Merci beaucoup Léo Fichou, midi 31, et c'est la fin de cette édition. Et on se retrouve à 13h pour le prochain rappel des titres.